Lara Dizran.
L'atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie suisse fait un blessé. Un Airbus qui effectuait la liaison Bucarest-Zurich a été contraint de se poser à Graz en Autriche ce soir en cause des problèmes moteurs et de fumée détectée dans le cockpit et la cabine. Les 74 passagers ont été évacués, 15 personnes ont été prises en charge par des médecins. La compagnie suisse se dit profondément préoccupée par l'état de santé incertain d'un des membres de l'équipage. Un groupe de travail a été mis en place pour s'occuper de l'assistance et examiner l'événement. En France, François Bayrou ne suspendra pas la réforme des retraites de 2023. Le Premier ministre français s'est exprimé sur la chaîne BFM TV ce soir, peu après l'annonce de son nouveau gouvernement. Parmi le casting, deux anciens premiers ministres, Elisabeth Borne et Manuel Valls, qui dirigeront respectivement le ministère de l'Éducation et celui des Outre-mer. François Bayrou se dit fier d'un gouvernement d'expérience. La gauche, elle, dénonce un gouvernement de droite extrême. Le Rassemblement national, de son côté, accuse François Bayrou de réunir la coalition de l'échec. La Suisse étend ses sanctions contre la Russie et le Bélarus. La Confédération a ajouté plusieurs dizaines de noms à sa liste de sanctions en raison de la guerre en Ukraine, selon le Département fédéral de l'économie. Les personnes et les entreprises visées comprennent notamment des membres de l'armée, des dirigeants d'entreprises du secteur de l'énergie russe ou encore des personnes responsables de diffusion de fausses informations. Ces différentes sanctions prendront effet dès demain. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoque aujourd'hui avec prudence des avancées pour un accord sur les otages retenus à Gaza. Un tel accord est l'une des conditions pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien. La semaine dernière, des négociations indirectes entre Israël et le Hamas au Qatar ont ravivé l'espoir d'un accord sur une trêve et une libération des otages. Au Guatemala, plusieurs enfants enlevés par une secte juive ultra-orthodoxe ont été récupérés et placés sous protection judiciaire aujourd'hui. Ces enfants font partie d'un groupe de 160 jeunes secourus vendredi après une descente de police dans la ferme de la secte Lev Tahor. Cette secte est visée par une enquête sur des soupçons de grossesse forcée, viol et autres abus. La grippe saisonnière fait son grand retour. Les cas recensés par l'Office fédéral de la santé publique ont doublé en une semaine. Quant à la vague du Covid-19, elle semble avoir atteint son pic, selon l'OFSP. Les cas restent pour l'instant plus nombreux que ceux de la grippe saisonnière, même s'ils ont diminué de moitié depuis début octobre. Après une journée nuageuse et enneigée, demain mardi encore des nuages avec les derniers flocons le long des Préalpes. Le soleil fera son retour dans l'après-midi, température minimum moins 1 degré, maximum 3 degrés. Pour Noël, pas de neige en pleine, mais du soleil et un peu de brouillard.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Merci. Merci de vous être mobilisés avec nous contre les violences faites aux enfants. Merci d'avoir contribué à leur offrir une enfance heureuse en Suisse et dans le monde. Ensemble, avec la RTS et la chaîne du bonheur, nous pouvons faire face à la maltraitance infantile. Parce que donner est un jeu d'enfant. Les dons sont encore possibles jusqu'à la fin de l'année sur coeur-rts.ch.
Les références, Julian Sykes.
Cette semaine, on évoque la carrière d'un grand chef d'orchestre qui fut aussi compositeur, Pierre Boulez.
Pour moi, le chef d'orchestre symbolise, si vous voulez, la distribution du temps aux musiciens d'orchestre.
Pierre Boulez, un immense compositeur et chef d'orchestre qui nous a quittés en 2016 à l'âge de 90 ans. On va le découvrir cette semaine dans sa fonction de chef d'orchestre. Il a beaucoup servi ses prédécesseurs et ses contemporains. Et c'est avec Stravinsky qu'on ouvre cette série, le Sacre du printemps, dont voici les dernières pages, la danse sacrale. La fin du Sacre du printemps par Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland. Là, on est vraiment dans l'esthétique Boulez. Des rythmes ciselés au scalpel, quelque chose à la fois acéré et dépouillé. Et puis, une tenue d'orchestre exemplaire. Il détestait l'effet pour l'effet, le pathos pour le pathos. Non, non. Boulez se mettait au service du compositeur, comme il aurait souhaité qu'on se mette à son service. Il a développé sa propre gestique, sans baguette, d'une grande efficacité. C'était une sorte de chorégraphie des mains où il impulsait les temps forts et les contretemps avec une gestion incroyable du rythme, un sens des couleurs musicales. Peu de subjectivité, peu de pathos, ce qui ne veut pas dire qu'il était froid. Je pense qu'il y a un vrai malentendu là autour. Et c'est justement ce que j'aimerais mettre en lumière cette semaine avec une sélection d'interprétations dans sa vaste discographie. Alors imaginez une soixantaine de CD pour ses seuls enregistrements CBS et Sony Classical. Il y a encore ceux d'Erato et tous ceux pour la firme Deutsche Grammophon dans la dernière tranche de sa vie. Pierre Boulez, un chef autodidacte, qui s'est mis à la direction d'orchestre pour servir ses propres œuvres, des œuvres qui restent encore pour beaucoup de mélomanes difficiles à appréhender. Une personnalité tantôt admirée, tantôt vilipendée, un esprit d'une rare acuité qui savait aussi aborder son métier avec beaucoup de pragmatisme. Pierre Boulez.
Il y a deux aspects dans le métier de chef d'orchestre, naturellement. Il y a d'abord un aspect physique. Il faut que le chef d'orchestre soit doué physiquement avec ses bras. S'il n'est pas doué physiquement, c'est un gros handicap parce qu'il n'acquérera vraiment jamais une grande légèreté ou une grande souplesse, disons, de direction. Donc s'il n'y a pas de don physique au départ, il y a un sérieux handicap qui est presque impossible à surmonter. Mais ce don étant là, il y a une deuxième chose qui joue, c'est la culture musicale. Et là, alors vraiment, j'insiste beaucoup et de plus en plus, en particulier pour la musique contemporaine, il faut une culture musicale très solide pour faire un chef d'orchestre de grande classe. Je veux dire par là même que la connaissance des partitions est indispensable, et non seulement simplement pour pouvoir diriger, mais pour pouvoir préparer le travail de répétition avec le maximum d'efficacité dans un minimum de temps. Il faut connaître d'abord naturellement les partitions, il faut connaître les endroits difficiles des partitions et comment arriver à bout de ces endroits difficiles. C'est-à-dire, il y a beaucoup de problèmes qui se posent quand on... Spécialement, alors je parle maintenant d'une musique contemporaine où les orchestres sont plus ou moins entraînés d'abord, et deuxièmement, où les problèmes directs sont tout de même beaucoup plus délicats que dans les pièces de répertoire, disons, jusqu'à Debussy.
Thank you.
Une version d'esprit et de chair, j'ai envie de dire, pour ce deuxième volet des Nocturnes de Claude Debussy. C'était Fête dans le premier enregistrement de Pierre Boulez pour la firme CBS avec le New Philharmonia Orchestra de Londres. Un chef autodidacte, je vous le disais, pragmatique, qui ne s'embarrassait pas de discours inutiles pendant les répétitions et que les musiciens appréciaient pour son oreille infaillible. Il était capable de pointer un défaut d'équilibre, un défaut d'intonation, un rythme mal agencé. Évidemment, ça pouvait mettre mal à l'aise certains musiciens qui ne se sentaient pas à la hauteur. Mais l'idée était de rendre le discours musical d'un compositeur le plus lisible possible, de se débarrasser des couches de tradition qu'il ne supportait pas. Et ça, il l'a fait dès les premières années, dans les années 50 en particulier, où il dirigeait les concerts du domaine musical à Paris, avec la musique de la seconde école de Vienne et celle des plus jeunes compositeurs de l'époque, Stockhausen, Berio, Nono, Henri Pousseur et lui-même. Les vétérans, et là je parle des chefs d'orchestre, les vétérans comme Roger Desormières, victime d'un accident vasculaire cérébral en 1952, Hermann Scherchen et Hans Rosbaud n'étaient pas vraiment disponibles. Pierre Boulez a dirigé lui-même son marteau 100 mètres en 1956 avec des musiciens qui étaient venus de Baden-Baden. Et en 1957, il a dirigé la première version de son Visage nuptial à Cologne. En 58-59, il est parti en Allemagne et c'est là, surtout à partir de 59, qu'il a développé son activité de chef d'orchestre en parallèle à celle de compositeur. On va l'entendre raconter tout ça au micro du journaliste Henri Jaton en 1975.
J'ai commencé naturellement par diriger uniquement le répertoire contemporain, j'ai dirigé au domaine musical pas mal et j'ai dirigé les orchestres surtout en Allemagne. Je veux dire que le point de départ de la direction coïncide, et pas fortuitement, avec mon séjour en Allemagne en 1959. J'ai d'abord dirigé toutes les orchestres de radio allemands dans des programmes contemporains, et j'ai de plus en plus dirigé en particulier le Südwestfunk à Baden-Baden, où le docteur Strobel m'avait demandé de venir. Si bien que progressivement, j'ai pu augmenter ma technique. Et évidemment, on ne peut pas faire des programmes axés uniquement sur la musique contemporaine. C'est absolument impossible, et économiquement impossible surtout. Donc, j'ai commencé à élargir le répertoire. Et ensuite, naturellement, j'ai eu des invitations qui ont commencé à venir d'Europe, en tout cas. En particulier, j'ai eu une période qui a été très féconde avec le Concertgebouw à Amsterdam, où c'est la maladie de Rosbaud qui a provoqué mon travail, là. Vous savez que Hans Rosbaud était chef au Südwestfunk et nous avions une très bonne relation, une très amicale relation depuis des années, surtout depuis qu'il avait créé Mes œuvres. Si bien que quand Rosbaud est tombé malade, il a vivement conseillé aux organisations qu'il avait engagées de m'engager. C'est comme ça que j'ai connu le Concertgebouw. Et puis après, j'ai sauté la manche, si je peux dire. J'ai été à la BBC très souvent. William Clock m'a invité à la BBC et j'ai travaillé à la BBC depuis 1964.
un morceau intitulé « Vorgefühl, pressentiment » dans un style atonal. C'était la première des cinq pièces d'orchestre de Schoenberg dans son enregistrement des années 70 avec l'Orchestre symphonique de la BBC de Londres. Retrouvons Pierre Boulez qui parle de ses années de formation de chef dans les années 60. Il court les destinations en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, où il dirige justement l'Orchestre symphonique de la BBC dès l'année 1964. Il étend son répertoire avec ses premières expériences d'opéra en France, puis en Allemagne. Pierre Boulez.
Entre-temps, j'avais aussi travaillé à Paris, en particulier sur l'invitation de Georges Auric. J'avais dirigé Wozzeck à Paris, ce qui a fait ma réputation et ce qui m'a introduit à Bayreuth. Un monsieur nommé Helwig, qui travaillait à ce moment-là avec Wieland Wagner, était venu à Paris pour voir cette représentation. Il avait été très favorablement impressionné, si bien que Wieland Wagner, pratiquement dans les années qui ont suivi, m'a demandé de diriger Parsifal. Tout cela s'est enchaîné. Et finalement, plus j'ai dirigé, plus j'ai vu qu'on ne pouvait pas faire vraiment des choses importantes, changer probablement le point de vue d'une organisation musicale sans être directeur musical. Premièrement, cela implique qu'on est en constant contact avec l'orchestre, qu'on travaille avec l'orchestre d'une façon suivie. Et de cette façon, on peut transformer pratiquement le style de l'orchestre, développer en tout cas certaines qualités qui n'étaient pas là jusqu'à ce moment. Et puis aussi, on peut influencer naturellement la teneur des programmes, leur direction esthétique, leur façon d'être même, je dirais. Si bien que quand William Gluck m'a proposé d'être chef permanent à la BBC, j'ai accepté parce que je savais que c'était un homme tout à fait exceptionnel. Un homme d'une ouverture d'esprit vraiment très large et qui est d'une connaissance aussi très large et d'une volonté extraordinairement persistante. Il avait changé beaucoup de choses à Londres déjà et je crois que le fait qu'il pouvait s'appuyer sur moi et moi sur lui a été vraiment quelque chose de très bénéfique aux deux. Donc j'ai été nommé à Londres et puis dans le même instant pratiquement, très peu de temps auparavant, George Sell m'avait invité à Cleveland. Et là aussi, George Sell avait entendu parler de moi par le Concertgebouw, puisqu'il venait assez régulièrement diriger au Concertgebouw. Il avait été donc entendu parler de moi, il m'a invité. Et avec l'orchestre, je veux dire que je m'étais très bien entendu. Et spécialement, nous avions, disons, un répertoire qui se complétait. George Sell était orienté naturellement vers la littérature classique, spécialement Mozart, comme vous savez, a interprété merveilleusement tous les classiques viennois, spécialement. Et il me laissait pratiquement la littérature contemporaine, tout en faisant aussi quelques pièces de la littérature classique. Si bien que l'orchestre avait deux chants complètement différents qui élargissaient le répertoire d'une façon extensive. Ce succès à Cleveland, disons, cette relation qui était vraiment très favorable et très productive à Cleveland, a fait que le New York Philharmonic s'est intéressé à moi. Et après 4 semaines de concert avec le New York Philharmonic, on m'a demandé d'être le directeur musical, ce dont j'ai été le premier surpris, je dois dire. Et tout le monde, dans le monde musical aussi, ça a causé une surprise, mais la surprise a été d'abord pour moi, certainement.
La fin dionysiaque de Daphnis et Chloé de Ravel avec cette merveilleuse orchestration. Pierre Boulez dirigeait l'Orchestre Philharmonique de New York dans cet enregistrement rutilant et sanguin, typique de sa première manière, avec les choristes des Camerata Singers. Alors on mesure la force de travail de Pierre Boulez, son enthousiasme, mais malgré ça, il constate qu'il se laisse envahir par la direction d'orchestre, c'est un terme qu'il a souvent utilisé dans les interviews. Il doit se repositionner, comme il en parle à Henri Jaton, toujours en 1975.
Naturellement, c'est extrêmement flatteur quand on vous demande d'être le directeur musical d'une organisation comme le New York Philharmonic, surtout New York est une des plus grandes villes, sinon la plus grande ville du monde. Je me suis dit que je pourrais arranger cet engagement avec l'engagement de Londres et finalement, après un accord, j'ai partagé mon temps entre Londres et New York. Mais ce que je ne savais pas tout à fait encore, c'est vraiment la charge que représente la direction musicale de deux orchestres. Je croyais toujours, parce que je peux très bien, j'ai une forte résistance au travail, donc je pensais que je peux très bien mener ces deux organismes et encore avoir du temps pour moi et avoir composé, etc. Mais il s'est bien vite révélé que quand on a des organismes de cette taille-là, qu'on veut en plus de ça s'en occuper personnellement, qu'on veut soi-même participer à la programmation, qu'on s'occupe personnellement de tous les problèmes de l'orchestre, eh bien le temps fuit d'une façon inexorable. Et on a très peu de temps pour soi, pratiquement, et très peu d'énergie pour soi. Si bien qu'au bout d'un certain temps, je me suis dit qu'il était vraiment difficile de faire tout à la fois. Et progressivement, j'ai renoncé d'abord à BBC et puis ensuite à New York. C'est-à-dire que la BBC, j'ai quitté en tant que directeur musical maintenant, juillet de cette année, juillet 75. Et New York, mon contrat est limité, c'est-à-dire que je ne veux pas renouveler mon contrat moi-même. C'est une fête connue maintenant. Je partirai de là en septembre 77, exactement.
Béla Bartók, une pièce pleine d'accent populaire, hongrois forcément, extraite d'une suite de danse. Pierre Boulez dirigeait l'Orchestre Philharmonique de New York dans un enregistrement de février 1972 à l'Avery Fisher Hall du Lincoln Center. Pierre Boulez profite de ses mandats à Londres et à New York au début des années 70 pour bousculer le rituel du concert, comme par exemple les rock concerts avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de New York.
C'est une série que nous donnions à la fin de la saison, c'est-à-dire mi-juin. On a donné 2 semaines de concerts qui s'appelaient en anglais rag concert, c'est-à-dire les concerts du tapis. On vidait la salle de tous les fauteuils et on mettait, il y avait des grands plans horizontaux, 3 grands plans horizontaux, sur lesquels on posait des tapis. En plus de ça, il y avait des milliers de coussins de caoutchouc qui nous causaient beaucoup de soucis au départ, parce qu'on s'est dit, comme ces concerts s'adressaient à un public jeune, on s'est dit, mon Dieu, ces gens vont peut-être prendre ces polochons de caoutchouc et les faire virevolter dans tous les sens. Eh bien, au contraire, ce public-là était absolument extraordinaire. Et je crois que l'orchestre s'est senti beaucoup plus concerné parce que j'avais placé l'orchestre au milieu du public. Comme il y avait des gens derrière eux, comme les musiciens se sentaient entourés de toutes parts, il n'y a pas de doute qu'il y avait une espèce d'émulation, de se sentir regardé de si près dans son activité. Et en plus de ça, les programmes n'étaient pas du tout des programmes d'abonnement normaux. C'était des programmes beaucoup plus audacieux, dans le sens où on mêlait des œuvres du passé avec des œuvres d'avant-garde. Et j'ai constaté vraiment que ce genre de programme en zigzag, c'est-à-dire que c'est un peu comme aller sur les montagnes russes. Vous savez, on avait l'impression, bon, alors on se sentait en sécurité, puis d'un coup, ça descendait à toute vitesse, et il y avait ce creux à l'estomac, et puis après, il y avait un passage plus tranquille, et ils adoraient ça, vraiment. Et on a eu, avec les œuvres contemporaines, les plus grands succès de la saison.
Thank you.
La musique surnaturelle et de caractère expérimental de Pierre Boulez, improvisation sur Mallarmé numéro 2 tirée de Pli selon Pli. Cette pièce, Boulez l'a dirigée lors d'un Rug Concert le 14 juin 1974 à New York avec la soprano américaine Phyllis Bryn Julson qu'on entendait ici. Et ce soir-là, il y avait aussi au menu le troisième concerto brandebourgeois de Bach, la deuxième symphonie de Schubert, la symphonie opus 21 d'Anton Webern et la suite de l'histoire du soldat de Stravinsky joué par des musiciens solistes de l'Orchestre Philharmonique de New York. Programme pour le moins éclectique, voire incongru. On va quitter cette musique assez exigeante, mais quand même poétique de Boulez pour écouter ici une œuvre plus familière, un langage plus familier. C'est une très belle pièce de Maurice Ravel, « Une barque sur l'océan ». Boulez dirige l'Orchestre Philharmonique de New York. Pierre Boulez et l'Orchestre Philharmonique de New York dans la musique impressionniste de Ravel, avec ses chatoyances et cette délicatesse. La pièce qu'on écoutait s'appelle « Une barque sur l'océan ». On l'a vu, Boulez a dirigé des œuvres d'esthétique très variées, de Bach à Berlioz, en passant par Franz Schubert, ce qui peut surprendre pour un chef féru d'avant-garde. Alors quelle différence quand on dirige une œuvre moderne du XXe siècle et une œuvre classique comme une symphonie de Schubert ?
Tous les musiciens connaissent ça par cœur, comme on dit. Donc il n'y a pas besoin de battre la mesure. Le 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3 est complètement inutile. Les musiciens le savent aussi bien que vous. Ce qu'il faut à ce moment-là, quand on dirige ça, ce n'est justement aller au-delà de la mesure qui est un problème, dans ce cas-là, pas important du tout. Ce qu'il faut, c'est donner le phrasé, donner les impulsions dynamiques, donner les changements de tempo, donner ou du moins les modifications de tempo. Et c'est là le but principal. C'est-à-dire que vous n'avez aucun problème de bras dans une symphonie de Schubert, par exemple, aucun problème de technique de direction, de battue, de difficulté, etc. Ça n'existe absolument pas. Donc vous vous êtes concentré entièrement sur ce que j'appelle le phrasé, que ce soit le phrasé dynamique, que ce soit le phrasé mélodique, comme on l'entend généralement, ou que ce soit le phrasé temporel même, l'impulsion générale à donner pour que la forme se formule bien, qu'on ait vraiment une claire perception de la forme symphonique.
Une danse allemande de Schubert orchestrée par Anton Webern. Pierre Boulez dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans cet enregistrement de mars 1993 à la Jesus Christus Kirche de Berlin. On arrive doucement à la fin de cette émission et pourquoi pas se quitter encore avec ces danses allemandes délicieuses de Schubert. Elles sont toujours orchestrées avec beaucoup de soin par Monsieur Webern. Quelques danses allemandes de Schubert orchestrées par Webern avec un thème qui revient un peu comme une ritournelle. C'est de la musique typiquement viennoise et on l'écoutait ici interprété par Pierre Boulez à la tête des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'est ainsi que se termine cette première émission d'une série de 5 consacrée à Pierre Boulez, chef d'orchestre. Je remercie Bastien Meucli pour son assistance à la réalisation et j'espère vous retrouver au plus vite, dès demain, pour la suite de ses aventures, toujours Boulez. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 23h, le bulletin d'information suivi de Zone Bleue.